Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais...
Ah bah non, ça, justement, je me souviens pas de ça.
Je me souviens surtout d'odeurs.
De sensations, plus que d'anecdotes précises.
Vous écoutez le Bistrot Mémoire Rennais sonore.
Le Bistrot Mémoire Rennais est heureux d'accueillir à nouveau le professeur Dominique Somme, gériatre au CHU de Rennes, pour une intervention sur les médicaments sont-ils néfastes pour la mémoire ?
Oui, il y a des médicaments qui sont bons pour la mémoire quand même. On va commencer par là. En fait, le cerveau, c'est un organe comme les autres. Mieux il fonctionne et mieux la mémoire elle fonctionne. Et comme tous les autres organes, il a besoin de fonctionner en harmonie avec les autres. Donc quand on a une maladie chronique quelque part, eh ben, le cerveau, il va moins bien. Et quand on a moins de maladies chroniques quelque part, le cerveau, il va mieux. Donc, quand on se traite bien pour ces maladies chroniques, le cerveau, il va mieux. D'accord ? Donc, la première chose à bien retenir, c'est que bien se traiter pour toutes ces autres maladies, c'est déjà prendre soin de son cerveau. Et ça, c'est un point, je pense, la première chose à bien rappeler, c'est que ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire les maladies chroniques qui font qu'on a plus de risques de faire des problèmes vasculaires, comme par exemple le diabète, le cholestérol, ou comme par exemple l'hypertension artérielle, c'est des maladies qui, au fur et à mesure, finissent par endommager le cerveau, d'accord ? Si on les laisse progresser tout le temps, sans les traiter. Donc, bien traiter ces pathologies, quand on en a, bien sûr, c'est pas la peine de les traiter si on n'en a pas, mais si on en a, bien les traiter, c'est déjà prendre soin de son cerveau. Et bien sûr, si on a en plus déjà des petits signes de maladie de cerveau, et bien ça devient encore plus important de prendre soin de ce type de pathologie. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà prendre soin des maladies chroniques de ce type-là. Dans cet ordre d'idées-là, quand on a une maladie qui fatigue un organe, alors je ne sais pas s'il y a ici des gens qui ont ça, mais peut-être vous avez déjà entendu parler de ce type de maladie, l'insuffisance rénale chronique, par exemple, ou l'insuffisance cardiaque chronique, d'accord ? Ce type de maladie, ça fait que le perfusion du cerveau est moins bonne. Et donc, le sang qui arrive dans le cerveau est moins bonne. Donc, si on améliore le sang qui arrive dans le cerveau, bah, on améliore forcément le fonctionnement du cerveau. Donc là aussi, quand on traite bien ce type de maladie, on finit par aller mieux au niveau du cerveau. Et puis, de temps en temps, bah, il arrive qu'on fasse des accidents vasculaires cérébraux. Ça veut dire qu'il y a un petit vaisseau dans la tête qui se bouche. Parfois, c'est des saignements, mais le plus souvent, c'est des petits vaisseaux qui se bouchent. Ça peut donner des hémiplégies, ça peut donner des choses comme ça, mais ça peut donner aussi, selon l'endroit qui est atteint, soit des troubles de la parole, soit des troubles de la mémoire. Évidemment, quand il y en a eu un, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y en ait pas un deuxième, ou en tout cas, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas un deuxième. Donc là aussi, on a des médicaments qui essayent de prévenir, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire, le fait qu'il y ait un nouvel accident vasculaire. Et ça aussi, ça protège le cerveau. Alors, il y a aussi des traitements, alors c'est plus séquentiel dans le temps, mais quand on a des maladies qui affaiblissent d'un point de vue général, comme par exemple un cancer, ou comme par exemple une maladie inflammatoire, ou d'autres pathologies comme ça qui affaiblissent beaucoup, et bien si on traite bien ce type de maladie, le cerveau va aller mieux aussi derrière. Donc quand on a ce type de pathologie, on va moins bien du cerveau, puis si on traite ces pathologies, on va aller mieux derrière. Dans le même état d'esprit, il y a quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure de problèmes respiratoires, mais l'oxygène, ça peut être aussi un traitement important pour certaines personnes qui ont besoin d'oxygène en permanence, et bien, ça peut être un moyen aussi de préserver le cerveau. Et puis de temps en temps, il y a des gens qui manquent de certaines vitamines, parce que voilà, dans leur alimentation, c'était pas assez apporté, ou parce qu'ils ont des variations anatomiques qui font que c'est moins bien absorbé chez eux. Si c'est le cas, apporter ces vitamines qui manquent, ça peut améliorer aussi le fonctionnement du cerveau. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses finalement. Hein. Personne n'avait dit qu'il y avait des choses qui amélioraient le fonctionnement du cerveau, et puis j'en trouve quand même quelques-uns. Au passage de ça, je fais quand même de la pub pour ça, parce que j'y crois vraiment très fort, et je le dis à tous mes patients, les vaccins aussi, dans le sens que ça prévient les accidents de santé, c'est une bonne manière de protéger son cerveau aussi. Après, pour que je vous explique pourquoi certains médicaments peuvent ne pas bien fonctionner avec le cerveau, ou bien fonctionner avec le cerveau, il va falloir qu'on ait un petit peu accès au fonctionnement lui-même du cerveau. Alors, le fonctionnement du cerveau, ces cellules qui sont dans le cerveau, ça s'appelle des neurones. Ils font passer de l'information d'un neurone à l'autre, c'est un petit courant électrique, hop, et puis ça s'arrête, un espace. Dans cet espace-là, ils vont se passer des molécules chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs. Hop, il y en a un qui largue des neurotransmetteurs, ça va se fixer sur un petit récepteur et comme ça l'information est gardée dans le deuxième neurone. Alors, il y a plusieurs neurotransmetteurs. Il y en a certains que vous devez déjà avoir entendu parler, la dopamine, la sérotonine. Vous avez sans doute déjà peut-être entendu parler, c'est un peu plus difficile, mais sérotonine, on en entend parler de temps en temps. La noradrénaline, là, ça devient déjà plus rare que les gens en aient entendu parler. L'acétylcholine, c'est pas si fréquent que ça, que vous en ayez entendu parler, et puis après, il y en a d'autres. Bon, peu importe. Alors, pourquoi on a entendu parler de la dopamine ? Souvent, on a entendu parler de la dopamine parce qu'on sait qu'il en manque quand il y a une maladie de Parkinson. Alors, du coup, la dopamine, on en donne dans la maladie de Parkinson et puis ça améliore le fonctionnement moteur. Ça n'améliore pas beaucoup la mémoire. Désolé, c'est pas un neurotransmetteur très important dans les mécanismes qui permettent de faire de la mémoire. Par contre, c'est très important pour tenir debout, pour marcher, pour avoir des gestes fins, pour avoir des gestes précis, mais il n'est pas très important pour la mémoire. Il est important aussi dans autre chose, c'est qu'il est important pour avoir une sensation de bien-être. Généralement, on parle de dopamine comme hormone du bonheur un peu, hein. Donc c'est important. Et de temps en temps, ça peut pas bien marcher, au contraire, il peut y avoir trop de dopamine. Quand il y a trop de dopamine, ça peut donner des hallucinations, d'accord ? Ça peut donner des problèmes de délire. Et dans ces cas-là, on donne des médicaments qui viennent contrer ce délire ou des hallucinations. C'est ce qu'on appelle des neuroleptiques. En fait, quand on dit neuroleptique, on dit antidopaminergique, c'est la même chose. Voilà. On bloque cette voie-là. Alors pourquoi ça peut être bon pour la mémoire, ça, ou mauvais ? Un peu les deux. En fait, ça peut être bon parce que si vous avez des hallucinations, c'est pas le meilleur moment pour arriver à suivre les informations. Vous voyez, c'est pas simple d'arriver à se concentrer quand on a en plus des hallucinations, des personnes qui n'existent pas, qui vous parlent, etc. Donc forcément, ça pose problème pour se concentrer, pour suivre une discussion, etc. Bien sûr, si j'arrête d'avoir ce type de tracteur, je vais pouvoir mieux me concentrer. Mais en même temps, problème, je vais donner un autre effet sur lequel je vais revenir un tout petit peu plus tard. Alors, du coup, l'acétylcholine, ça c'est un autre neurotransmetteur qu'on a dans le cerveau, puis celui-là, il a un nom bizarre, et puis ça fait long comme ça. Pour autant, il est très important de le connaître, parce que ce neurotransmetteur-là, il est assez important dans les mécanismes de contrôle de la mémoire. Il n'est pas directement dans les endroits où il y a de la mémoire, mais il est dans les centres qui contrôlent la mémoire. D'accord ? Donc quand on fait baisser l'acétylcholine, on fait baisser la mémoire. Et ça, c'est très vrai, au point que, il y a quelques temps, on prescrivait des médicaments qui faisaient augmenter l'acétylcholine dans le cerveau, en espérant que ça puisse contrer les phénomènes de perte de mémoire. Alors, ça n'a pas très bien marché ça, mais pour autant, on sait que quand on fait baisser l'acétylcholine, ça fait baisser la mémoire, d'accord ? Or, il y a plein de médicaments, ça c'est la mauvaise nouvelle, qui font baisser l'acétylcholine. Ça c'est la mauvaise nouvelle, hein, parce que j'aurais préféré que ce soit pas le cas. Mais il y a des médicaments, par exemple, contre le prurit, quand on se gratte, médicaments souvent, qui ont des phénomènes contre l'acétylcholine. Ou il y a des médicaments qu'on donne dans l'incontinence urinaire aussi. Pas tous, hein, mais il y a des médicaments qu'on donne dans l'incontinence urinaire. Des médicaments qu'on donne pour dormir, des médicaments et les fameux médicaments dont je parlais tout à l'heure, les neuroleptiques, ils sont tous anticholinergiques. C'est embêtant, parce que du coup, ils diminuent aussi un peu la mémoire par ailleurs. Ça c'est l'acétylcholine. Et nous autres, là, les médecins, on peut calculer la charge anticholinergique d'une ordonnance. D'accord ? On regarde une ordonnance, et plus il y a de médicaments, plus il y a de chances qu'il y en ait qui soient contre l'acétylcholine, hein, on est d'accord ? Et donc on peut avoir une espèce de charge anticholinergique qui nous permet de savoir si la personne, elle a des risques d'avoir des effets médicamenteux contraires sur la mémoire. Alors tout à l'heure, quelqu'un qui a dit que les antidépresseurs, c'était mauvais pour la mémoire. Et c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus. Je vais revenir là-dessus. La dépression, c'est mauvais pour la mémoire. Quand on est dépressif, on a des phénomènes qu'on peut appeler, je vais être imagé, j'appelle ça moi la préoccupation. Au sens strict du terme, ça veut dire que le cerveau, avant d'être occupé à faire de la mémoire, il est occupé à autre chose, il est préoccupé. Et du coup, il est moins bon pour faire de la mémoire. Et ça, ça vous explique que quand on est déprimé, on a du mal à retenir des choses. Et du coup, si j'arrive à traiter la dépression avec un antidépresseur, je vais améliorer la mémoire. Encore faut-il que le traitement soit efficace, c'est pas toujours le cas. Malheureusement, on essaye plusieurs antidépresseurs avant de savoir c'est lequel va être efficace, puis des fois c'est pas si simple que ça à trouver. En plus c'est des médicaments qui sont longs à agir, il faut du temps pour savoir si oui ou non le traitement est efficace ou n'est pas efficace. Et par contre quand on le prend de façon très très prolongée alors qu'on en a plus besoin,
éventuellement, alors là, ça peut devenir négatif. Parce que à ce moment-là, on fait exactement l'effet contraire de celui de la dépression, c'est-à-dire qu'on va, par le médicament, produire un distracteur de la mémoire. Donc il faut le donner quand les gens sont déprimés. C'est un bon médicament de la dépression, les antidépresseurs, ça doit être donné avec sérieux. Parfois, c'est pas le premier qui marche, donc il y a des fois, il faut essayer plusieurs pour être sûr de trouver la bonne molécule. Mais si on traite bien la dépression, en fait, on améliore un peu la mémoire. Et par contre, on peut effectivement, si on continue trop longtemps, avoir des problèmes avec la mémoire. Alors, il y a un médicament que vous n'avez pas cité tout à l'heure, c'est les antalgiques, et notamment la morphine. La morphine antalgique, hein, ça permet de bien supprimer la douleur quand on a vraiment mal. Et par contre, c'est pas idéal pour la mémoire. On est sous morphine, c'est pas très 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 facile d'arriver à bien mémoriser les choses, etc. Par contre, quand on a mal, on mémorise très mal aussi. Donc, vous voyez, à nouveau, on est dans cette entre-deux. C'est-à-dire que si on a mal en permanence, on a aussi quelque chose qui empêche la mémoire de travailler correctement. Et donc, les antalgiques, quand on arrive à en donner qui soulage la douleur, ça améliore la mémoire jusqu'à un certain point où ça peut entraîner des effets indésirables sur la mémoire. Alors, vous avez été nombreux à citer les somnifères. Pourquoi donc les somnifères sont-ils mauvais pour la mémoire? Parce qu'ils ne proposent pas un sommeil de bonne qualité, réparateur. Dans le sommeil, il y a plusieurs phases. Je pense que vous êtes au courant de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant en tout cas. Et il y a une des phases qu'on appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi on appelle ça le sommeil paradoxal? C'est parce qu'à ce moment-là, souvent, on a des mouvements. Alors, il y a notamment des mouvements des yeux, mais il peut même y avoir des mouvements du corps. Et souvent, le cœur s'accélère un petit peu, etc. Alors même que c'est un sommeil assez profond. Et c'est souvent par là qu'on peut être en train de rêver. Ça, c'est un peu moins sûr, peu importe. En tout cas, c'est un moment où on a des mouvements, où le corps, le cerveau aussi, en fait, s'active d'une façon étonnante, parce que en fait, on est complètement endormi, et pour autant, le cerveau, lui, là, d'un seul coup, se met à travailler. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et quand on enregistre le cerveau, parce que c'est comme ça qu'on l'a d'abord découvert, avec des électroencéphalogrammes, on voit que l'activité du cerveau, à ce moment-là, elle est assez dense. Et ça a été montré, quand on prive les gens de sommeil paradoxal, pas de sommeil, mais juste de pas de sommeil paradoxal, et ben les gens, ils finissent par pas retenir, on leur dit, par avoir des problèmes aussi de créativité, d'inventivité, de réactivité pendant la journée. Et du coup, on pense en tout cas aujourd'hui que c'est une partie du sommeil qui est indispensable, notamment pour les phénomènes de mémorisation, de ce qu'on a vécu dans la journée, etc. Et la plupart des médicaments qui amènent au sommeil, les somnifères, sont pas très bons pour le sommeil paradoxal. C'est-à-dire qu'en totalité de sommeil, il y aura peut-être autant de sommeil, mais généralement, il y a moins de sommeil paradoxal quand on est en sommeil sous somnifère qu'en sommeil normal sans somnifère. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les somnifères peuvent ne pas être bons pour la mémoire. Et alors, vous comprenez que par contre, bien sûr, si, comme ça a été dit, je suis privé de sommeil, c'est pas bon non plus pour la mémoire. Et si j'ai beaucoup d'anxiété ou un médicament, il y a des médicaments, par exemple les corticoïdes qu'on peut donner dans certaines maladies inflammatoires qui ont tendance à rendre très vigilant et donc à empêcher un peu le sommeil. Si je donne ce type de médicament et que ça a un impact sur mon sommeil, peut-être que je vais aussi avoir du mal à mémoriser. Donc vous voyez à nouveau que tout est une question d'équilibre. Et donc, il peut y avoir un intérêt à un moment donné, parce que j'ai un trouble du sommeil qui devient très très gênant, de passer par un somnifère pour me réapprendre à dormir, et puis après, d'arrêter le somnifère, parce que si je l'arrête, ben, je vais pouvoir retrouver mon vrai sommeil, le sommeil qui est bon pour ma santé, le sommeil qui me permet de bien mémoriser.
Et entre le somnifère et l'anxiolytique, qu'est-ce qu'il y a?
En fait, la plupart du temps, ce sont des molécules très proches, sur le plan de la structure moléculaire, que nous, on appelle les benzodiazépine, peu importe, c'est un mot un peu compliqué, mais en général, la plupart des somnifères sont des benzodiazépines et la plupart des anxiolytiques sont aussi des benzodiazépines. Donc on est en fait sur des médicaments qui sont très proches en termes de mécanisme d'action et qui vont du coup avoir le même type de problème sur le sommeil paradoxal si on les prend trop longtemps. On ne peut pas s'arrêter d'un coup de ce type de médicaments. Parce que quand on prend ces médicaments-là depuis longtemps, on devient dépendant. Notre corps s'habitue à ce niveau-là d'imprégnation avec cette molécule. Et du coup, comme on a cette dépendance, si d'un seul coup on arrête, eh ben on va faire comme quelqu'un de drogué, on va faire une crise de sevrage.
Oui, s'il vous plaît, à partir du premier jour, on peut dire qu'il y a des ventes.
Alors, et variable, on recommande de ne pas faire de traitement de plus de 30 jours. C'est ce qui est recommandé. Après, les gens sont tous différents et ça peut être plus que ça. Mais la recommandation principale est normalement plutôt 30 jours de traitement.
Si on n'arrive pas à dormir.
Et si on n'arrive pas à dormir, ben voilà, il faut toujours avoir de l'aide, je dirais, d'un médecin qui permet de vous accompagner dans cette difficulté. Hein. Je ne dis pas qu'on arrive tout le temps à s'en passer des somnifères. Il y a des patients chez qui on ne peut pas s'en passer. Et encore une fois, se passer de sommeil, c'est encore pire. Un hypnotique, c'est la même chose qu'un somnifère.
C'est pareil qu'un somnifère.
C'est la même chose. C'est deux synonymes. D'accord.
Parce que je pense qu'il faut s'en séparer, mais comment ?
Alors, voilà, il faut se faire accompagner, il faut demander d'abord à son médecin, il faut dire à son médecin, ben là, moi, je voudrais maintenant arrêter ce traitement. Et puis, c'est pas forcément simple, mais on peut accompagner ça. On me dit, il y a des gens qui sont très, très âgés, qui en prennent depuis des années. Malheureusement, je suis bien placé pour le savoir. Les patients qui viennent me voir, hein, il y en a beaucoup qui prennent des médicaments somnifères, effectivement. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, on est les champions du monde de la consommation de somnifères. Pour une raison qui n'est pas très claire, parce que c'est pas trop ce qui explique ça. Je dirais, pourquoi on serait tellement anxieux en France pour que... On a besoin de plus de somnifères que tous les autres dans tous les pays. Et une étude qui a été faite au Royaume-Uni sur la consommation de somnifères et la mémoire, cette étude-là, elle était négative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'impact de la consommation des somnifères sur la mémoire. Mais sauf que les consommateurs les plus élevés dans cette étude anglaise, ils consommaient 30 jours par an de somnifères. Alors que nous, on a quand même beaucoup de personnes qui prennent 365 jours par an des somnifères. Donc on vit presque pas dans le même monde, quoi. Il y a aussi une habitude en France, d'avoir recours aux médicaments assez vite pour ce problème de sommeil. Et c'est probablement pas la meilleure solution. Et donc, c'est l'idée aussi de varier les façons de se faire accompagner pour les problèmes de sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil, vous faites bien d'en parler. Parce que le syndrome d'apnée du sommeil, c'est pas bon pour la mémoire non plus. Surtout quand c'est pas appareillé. Alors voilà, est-ce que j'ai tout dit ?
Le fait de prendre des somnifères pendant des années, ça peut déclencher la maladie d'Alzheimer ou ça n'a rien ?
Alors, ça n'est pas la maladie d'Alzheimer, mais ça peut avoir un impact sur la mémoire. Ah bon, c'est un petit peu compliqué, mais la maladie d'Alzheimer, il y a des lésions particulières dans le cerveau et on ne va pas retrouver ces lésions-là chez quelqu'un qui, juste parce qu'il prend des médicaments, vous voyez. Mais par contre, fonctionnellement, il peut y avoir des problèmes de mémoire qui sont du même ordre que c'est quelqu'un qui aurait la maladie d'Alzheimer.
Donner des médicaments anti-épilepsie, nourrissons et des enfants, ça a une répercussion sur leur cerveau, pour la croissance du cerveau.
Donc les médicaments anti-épileptiques, on va d'abord dire pour les adultes avant de parler pour les enfants. Les médicaments anti-épileptiques peuvent avoir des effets effectivement sur le cerveau, forcément. Ils ne seraient pas anti-épileptiques d'ailleurs. Ils peuvent diminuer la capacité de concentration un peu de la même façon que les autres traitements dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une épilepsie, en fait, on a plus intérêt à traiter qu'à ne pas traiter. C'est-à-dire que sans traitement, les crises d'épilepsie, c'est très mauvais pour les processus de mémorisation et les circuits de mémorisation. Il vaut mieux traiter l'épilepsie que pas la traiter, ça c'est sûr. Par contre, bien sûr, prendre des médicaments anti-épileptiques alors qu'on n'aurait pas besoin parce qu'on n'aurait pas d'épilepsie, là, ça serait plus embêtant. Pour les enfants, quand c'est en néonatal, en fait, on n'a pas beaucoup de données parce que les médicaments anti-épileptiques, ils changent tout le temps. Les médicaments qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas les médicaments qu'on utilisait il y a 20 ans ou 30 ans ou même 40 ans, bien sûr. Savoir ce qui va se passer pour les bambins qu'on traite aujourd'hui avec les médicaments qu'on a aujourd'hui, 40 ans ou dans 60 ans, c'est un peu difficile. Les médicaments qu'on utilisait il y a 80 ans, c'est pas l'idéal, effectivement, pour plein de raisons, mais notamment aussi parce qu'ils ont des interactions avec les autres médicaments qui font que c'est pas très bon pour la santé. Mais on les utilise plus, ces médicaments-là. Donc, vous voyez, enfin, c'est un peu difficile de savoir ce qui va se passer. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'épilepsie néonatale, c'est souvent lié à des malformations intracérébrales, pas toujours, mais la plupart du temps, il y a des malformations intracérébrales. Et si on ne traite pas, ça pour le coup, ça s'aggrave. Ou là, pour le coup, ils ont des processus de mémorisation qui sont bien plus aggravés que si on traite. Voilà, à nouveau, c'est toujours une question d'équilibre. Il faut bien tenir compte de tous les paramètres.
Quand un médicament anti-épileptique est prescrit, non pas pour un problème d'épilepsie, mais pour une maladie neuropathique, pour une douleur neuropathique, est-ce que ça peut avoir une incidence?
Alors, oui. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure dans les deux sens, à nouveau. C'est-à-dire que si ça soulage votre douleur, ça améliore votre capacité mnésique. Parce que la douleur, c'est pas bon pour la capacité mnésique. Quand on a mal, on mémorise pas bien. Parce qu'on a quelque chose d'autre qui vient perturber les processus de mémorisation. Donc si c'est efficace, je dirais, si vous aviez mal et vous n'avez plus mal, eh ben, ça veut dire que finalement, c'est aussi efficace sur votre mémoire. Par contre, si c'est pas efficace, bah, ça veut dire que ça vaut peut-être le coup de remettre en cause le traitement. Parce que lui, bah, il va forcément, par contre, lui, avoir des effets. Quand on est dans le domaine de la douleur, c'est la personne qui a mal qui dit que ça marche ou que ça marche pas. Il a dit que ça marche, bah, il faut le croire. Mais votre question, je vais la reprendre dans une autre dimension, c'est est-ce qu'il y a une question d'âge sur les effets des médicaments sur le cerveau? Elle est oui à plus d'un titre. Elle est oui parce que la même dose de médicament, il faut qu'elle soit éliminée par le corps, nous on dit métabolisée, et en fait le métabolisme des médicaments, c'est-à-dire l'élimination des médicaments, devient moins performant avec le grand âge. Donc la même dose de médicament peut avoir des effets plus importants chez un patient âgé que chez un patient plus jeune, parce que je le détruis moins bien, d'accord ? Première cause. Deuxième cause, qui est la cible du médicament, par exemple quand c'est le cerveau, par exemple, quand c'est les médicaments pour le sommeil, en vieillissant, je peux avoir un peu moins de récepteurs pour ces médicaments. Donc, je vais avoir moins d'endroits où les médicaments vont aller se fixer. Ben, il y aura plus d'endroits où il y aura du médicament. Et en fait, l'effet sera augmenté alors que je n'aurai pas changé la dose à nouveau. Il y a deux façons que les médicaments, en fait, entraînent plus d'effets secondaires chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes pour la mémoire. Et la troisième façon, ça j'en ai déjà parlé un petit peu, puis vous l'aviez déjà évoqué de vous-même, c'est la multiplicité des médicaments. Donc, les interactions entre les médicaments. Plus il y a de médicaments, plus il y a de chances que les médicaments interagissent entre eux.
Je voulais savoir, le nouveau médicament qu'ils ont montré aux informations ralentit la maladie d'Alzheimer.
Ouais.
Ce que vous pensez?
Et c'est les anticorps. J'imagine que vous parlez des anticorps monoclonaux. Ben, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça vaut le coup d'être encore même de la recherche hein, pour le moment. Donc, au moment en France, on n'a pas le droit de le prescrire. Hein. En plus, des médicaments qui nécessitent des injections, il faut que ce soit fait dans un certain milieu, hospitalier, etc. Donc, pour le moment, en France, dans le cadre de protocoles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous informe du fait que vous rentrez dans un protocole. Ce n'est pas forcément contre placebo, mais ça peut être contre placebo. Donc, quand c'est contre placebo, ça veut dire que vous ne savez pas à l'avance si vous allez avoir le médicament actif ou un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui n'a aucun effet. Et on essaye de savoir si, en comparant quand on donne le médicament actif versus quand on donne un placebo, si ça fait une différence. Pour le moment, on a une étude qui a été publiée et qui va dans le sens de l'efficacité de l'un de ces anticorps. C'est le premier, parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des anticorps qui ont été tentés dans cette maladie. Jusque-là, ça a toujours été un échec. Là, il y en a un qui semble indiquer des résultats positifs. Il faut se méfier de crier tout de suite à la victoire. Dans ce type de recherche, c'est une recherche qui, quand même, qui est longue. Le problème des informations, vous l'avez dit, on en parle à la télé, le problème des informations, c'est qu'on en parle souvent un peu tôt aux informations par rapport au fait que ça va devenir disponible pour tout le monde. Parce qu'il y a quand même à peu près entre 5 et 10 ans entre le moment où on vous en parle à la télé et le moment où ça devient éventuellement disponible, c'est-à-dire que tout s'est bien passé dans les 5 à 10 ans. Et que finalement, ça devient sûr, on peut le prescrire dans de bonnes conditions. Donc voilà, je ne peux pas prédire l'avenir, peut-être que ça ira un peu plus vite cette fois-ci, peut-être qu'il y aura des bonnes nouvelles. On en est là aujourd'hui, c'est un espoir, ou le prendre comme tel, je pense que c'est une bonne chose. La première fois qu'on a un médicament qui indique quand même quelque chose qui va dans le bon sens chez l'homme, il y avait déjà eu des choses sur la souris, mais là, c'est chez l'homme. Donc là, on a un petit espoir. Mais faut pas en faire l'alpha et l'oméga de tout. Vous voyez qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on s'intéresse à ces pathologies, c'est de se dire que c'est pas une pathologie qui se comprend uniquement comme une pathologie du cerveau. Il faut comprendre que, en fait, il faut que la santé aille bien au total pour que le cerveau aille bien. Et c'est ça qui est, je pense, vraiment important de se dire qu'il faut qu'on développe une approche santé globale. Et cette santé globale, elle va participer à l'amélioration du fonctionnement du cerveau. Et si on a des médicaments en plus qui ralentissent les phénomènes, bah, tant mieux, il faudra bien sûr les utiliser. Voilà. Il faut encore un peu nous laisser un peu de temps, laisser aux chercheurs qui cherchent là-dessus.
Est-ce que certains aliments, par exemple, comme le chocolat, sont bons pour la mémoire?
C'est quoi le chocolat?
Et je pense que le plaisir, c'est bon pour la mémoire. Je pense qu'avoir un moment de plaisir, c'est des moments, généralement, que vous allez renforcer vos circuits, notamment dopaminergiques, j'en ai parlé tout à l'heure, et en fait c'est bon pour la mémoire. Donc si vous buvez un chocolat et que ça vous amène du plaisir, surtout quand c'est en bonne compagnie comme ça, je pense que ça peut être bon pour la mémoire. Par contre, c'est pas le chocolat tout seul, en fait c'est le plaisir que vous allez avoir à manger ce chocolat en cette compagnie, en cette occasion, qui va faire ce plaisir. Donc il n'y a pas d'aliment magique sur la mémoire.
Et bien, en tout cas, on vous remercie.
Je vous en prie.
J'ai rien compris.
À bientôt pour d'autres bistrots mémoire rennais sonores.